Bonjour.
Bonjour.
C'est bien le stage ?
Oui, tout à fait, bienvenue. Ouais. Allez-y, hein, installez-vous. Il y a du café, du thé, voilà, les verres sont là. Voilà, on a voulu faire quelque chose de convivial.
Nous allons commencer. Je vais vous souhaiter tout d'abord une très belle année 2026. Hein. Merci d'être venus si nombreux à cette formation. Donc, comme vous le savez, nous avons organisé cette journée avec l'atelier de Régologie et leur programme Bien-être en ce 3 janvier 2026 pour bien démarrer l'année. Parce que, en ces temps difficiles, il est très important de garder le sourire et d'accueillir la vie avec la bonne humeur. Et donc, nous allons organiser la journée en suivant quelques modules. Je vous laisse découvrir le programme avec Chantal.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors voilà, exactement, hein, on a pensé la matinée plutôt axée sur le corps, hein, pour se sentir bien, pour se réveiller ensemble, hein, c'est le matin. Voilà, donc déjà le corps et la voix. Et puis après, ben, on verra la suite du programme.
Enfin, oui, programme. Voilà. On a gardé un peu de surprise pour la suite. Bertrand, est-ce que je crois que tu t'es garé sur la place de parking du service propreté. On nous dit qu'ils doivent partir en tournée et vider les poubelles. Donc si tu peux aller enlever ta voiture. Ouais, merci Bertrand. Ouais. Du coup, ben, on peut prendre le temps de finir le café pendant que Bertrand va regarder sa Clio.
Il reste et, quelques crêpes aussi.
Hein. Ok, et ben, on va commencer le premier module juste après. Hein. Et ben, peut-être Jean-Luc, est-ce que tu pourrais nous mettre un peu de musique, s'il te plaît?
Chers amis,
j'ai connu la ferveur de ce stade-là où tout le monde était debout, tout le monde était, il y avait autant de monde, voire plus de monde que maintenant.
Merguez, cacahuètes, pralines.
Quand j'étais en primaire, on nous interdisait de parler notre langue.
Il faut pas se décourager, il faut aussi agir parce qu'on trouve que des choses sont intolérables.
T'es sérieuse, hein, de m'enregistrer ?
Et après, on a eu une petite douche de lacrymo pour leur rafraîchissement.
Goût
poivre.
On n'ouvre pas une usine en France pour enfermer une ailleurs.
On attend goût curry pour les végés. Quoi.
Du pain et des parpaings.
Une émission d'actu des luttes.
Un abatem di wars tum et breiza gellechal.
Aujourd'hui, on ne vous fait pas une actualité des luttes, mais plutôt une rétrospective de l'année 2025, avec des extraits des émissions de l'année, mais aussi plein de prises de son inédites.
Le tout accompagné par Chantal, Christian, Bertrand et tous les stagiaires du stage bien-être et développement de la mairie.
Bonne écoute.
Est-ce que des gens auraient des mains pour porter la bouffe, s'il vous plaît ?
Oui. La bouffe.
C'est la première fois, c'est hier, j'ai marché donc de Plougastel jusqu'ici à Brest et puis en fait j'étais toute seule en train de bouillir depuis des années chez moi et je me disais mais il faut que je sorte, il faut que je rencontre des gens et donc vient un copain, Julien, qui m'a parlé du collectif là dans les Monts d'Arrée et donc je suis venue et je suis ravie, c'est vraiment l'occasion de rencontrer plein de monde, de prendre date et puis de se connecter et de se déconnecter.
Bah écoute, moi j'ai 48 ans, je suis pas du tout manifestant dans l'âme, je pense que, enfin ça, on va faire court, mais en tout cas voilà, j'ai pas l'habitude des grèves, tout ça, voilà, je suis monsieur et madame tout le monde comme la plupart des gens ici, j'ai été au rond-point de retrait du don, voilà, parce que voilà, j'ai commencé à sortir pour qui, pourquoi, en tout cas c'est arrivé là, et quand j'ai vu la violence des forces de l'ordre, mais enfin je trouve ça absolument inadmissible quoi, c'est hallucinant. Donc j'ai fait la marche ensuite calée de Cizun, Landerneau, Daoulas, Brest.
On a été suivi d'un bout à l'autre de la marche par les gendarmes. Et ce qui était bien, c'est qu'ils étaient embêtés parce qu'on faisait absolument rien d'illégal. Et ils étaient entre le côté bah, surveiller quand même qu'on fasse pas un truc et bloquer la circulation parce qu'il fallait quand même sécuriser le trajet. Et on sentait que c'était face à ce genre d'action. Ils sont un peu embêtés parce qu'ils savent pas comment intervenir. Et d'ailleurs, ils n'interviennent pas. Juste pour nous dire, marchez sur le trottoir pour votre sécurité, etc. Et je trouvais ça assez bien de déstabiliser justement sur des actions où il n'y a pas de confrontation. Et mis à part nous suivre, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc ça, c'est un truc que je trouvais assez chouette. Voilà. puis il y a des gens, moi le premier, qui ne se sentent pas d'aller sur des blocages dans les confrontations directes avec la police. Et je trouve que là, c'est, voilà, il suffit d'être un minimum en forme physique. Et c'est une action qui est non violente et qui a du sens et qui historiquement en fait s'est déjà faite beaucoup et a eu des résultats aussi. Voilà, donc c'est un truc qui me correspondait vraiment et voilà.
Merci beaucoup à toutes et tous d'être là. Donc ça va être une manifestive, une marche avec de la musique. On va marcher jusqu'au pied du Sabès, la verse de déchets miniers, qui est bien cachée de la population, mais qui n'en pollue pas moins à la fois l'air et l'eau. Ensuite, on s'arrêtera là-bas pour un petit fest days et une balade naturaliste, et on reviendra jusqu'ici. On vous propose de continuer les festivités à la salle des fêtes de Plounévé-Quintin. C'est ouvert dès cet après-midi. À partir de 17h, il y a des stands. Le festnos commence à 18h30 et il y aura à manger, à boire sur place. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller à la salle des fêtes en fin d'après-midi pour qu'on se retrouve pour un moment festif ensemble. Bonne manifestation à toutes et tous et merci d'être là.
Moralement et de façon éthique, je ne peux pas aller contre une Russe. C'est comme ça. Et je ne reviendrai pas sur ma décision.
Alors là, on est devant la salle du Roélan et vous êtes arrivé à vélo.
Oui, on est arrivé là pour la main verte, le 50e anniversaire de la main verte, en soutien à un combat qui est passé, et surtout pour les combats futurs. Le combat à la Hague, là, qui va être pour bientôt, pour le mois de juillet, et puis depuis des années aussi, on est pour le combat à Bure, contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Et donc on est venu ici aussi en vélo, parce qu'on va organiser un vélo castor de Nantes à La Hague. Alors pourquoi Castor ? Parce qu'en fait, Castor, c'est comme les trains Castor, les trains qui trimballent les déchets nucléaires, des blocos sur rail et blocos sur camion. Voilà pourquoi on est là.
Alors, donc, on a des sacoches. Alors, c'est des bidons qui ont été bricolés pour faire des sacoches, en fin de compte. Et bon, on met nos autocollants maintenant, voilà. Et on a mis par rapport au nucléaire, là, c'est Fessenheim. Sortons du nucléaire, Fessenheim. Bon, Fessenheim s'est arrêté. Mais voilà, donc, on pense mettre aussi ça dans notre petit tour jusqu'à La Hague. Et autrement, on a toujours Stop Bure, parce que c'est notre combat. On est un comité pour soutenir les gens de Bure. Donc voilà.
Super Corinne pour la respiration. Super, super, super. On inspire et on expire avec toi, tranquillement, voilà. Super, merci, merci, merci. Alors ça, c'était le module bien dans son corps hein, pour commencer la matinée. Et puis alors maintenant, on va poursuivre avec une compétence indispensable, savoir parler en public. Est-ce que tout le monde est prêt ? Eh ben, on y va alors.
Aïe, aïe, aïe. Ça, ça fonctionne ou pas ? Peut-être là, ça... Non.
Tu chantes, c'est mieux pour nous.
Bravo à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux et nombreux. Big up à vous. Merci. Merci de donner de la force et du soutien en étant là pour toutes les personnes qui luttent depuis des années contre cette minicie, vraiment. Le rassemblement d'aujourd'hui, il montre qu'il y a bien du monde qui se sent concerné par la question de l'extension de cette mine. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes légitimes, nous sommes légitimes à se mobiliser. L'enquête publiée hier par Splend est un nouveau pavé dans la mare. Une nouvelle démonstration, s'il en fallait des nouvelles. Et s'il en faut d'autres, on continuera à en produire pour démontrer ce que nous savions en fait déjà. L'industrie minière est dramatiquement polluante. immérissement et cache les impacts de son exploitation depuis des années. L'État et nos élus locaux font le choix de sacrifier nos terres agricoles, notre santé, pour qu'une multinationale engendre des profits monumentaux pour des actionnaires qui sont à l'autre bout de la planète. Et ceci contre quoi ? Contre quelques miettes, qui ne valent pas la peine de mettre en danger la santé de toute une population et de détruire des terres agricoles. Et de polluer l'eau sur un territoire qui est le château d'eau de la Bretagne. Nous sommes le vivant qui se défend de Glomel à Plomeur, à Kervignac, à Échassières. Ce rassemblement est aussi un signe de ralliement à travers le monde avec toutes les personnes et collectifs qui luttent contre cette industrie mortifère. Ce rassemblement, c'est aussi un point d'étape. Un recours a été déposé par OI Rivière Bretagne contre l'extension et l'arrêté signé par le préfet. Les révélations également de ce plan ne resteront pas vaines et nous sommes ici pour rappeler que nous resterons mobilisés tant qu'Imerys et toutes les industries polluantes continueront à œuvrer en toute impunité. Nomina Ran ! Nomina Ran !
Nomina Ran ! Nomina Ran ! Nomina Ran ! Nomina Ran !
Alors, donc nous sommes réunis cet après-midi pour demander une date de procès. Les camarades sont poursuivis pour avoir bloqué un train de céréales destiné à nourrir un modèle agro-industriel destructeur qui asphyxie nos campagnes et compromet notre avenir. Ce geste, loin d'être un simple acte de défiance, est un cri d'alarme. Un cri contre un système qui appauvrit les sols, pollue nos rivières et enferme les paysans et les paysannes dans une spirale de dépendance économique et sociale. Ce que ces militants ont dénoncé, c'est une vérité que beaucoup préfèrent ignorer et qui dérange. L'agriculture industrielle n'est pas une fatalité, elle est un choix politique, soutenu par des lobbies puissants et des logiques de rentabilité à court terme. Nous, paysannes et paysans, refusons ce modèle. Nous défendons une agriculture paysanne qui nourrit les populations sans détruire notre environnement, qui préserve nos terres et crée de l'emploi dans nos territoires. Alors, plutôt que de juger des militants, demandons-nous qui sont les véritables coupables. Sont ceux qui alertent sur l'impasse dans laquelle nous sommes, ou bien ceux qui imposent un modèle qui détruit la paysannerie, notre souveraineté alimentaire et notre bien commun. Il n'est pas surprenant de voir la FNSEA et ses alliés se constituer partie civile dans ce procès, surtout lorsque l'on sait que Arnaud Rousseau, son président actuel, est également à la tête du groupe Avril, une multinationale possédant notamment l'entreprise Sanders, destinataire du train de céréales en question. L'alliance entre la FNSEA et les industriels ne fait plus aucun doute. La politique d'industrialisation des filières agricoles qu'ils défendent nous mène droit dans le mur. Crise sanitaire à répétition dans les élevages, effondrement du nombre de paysans avec une perte de moitié en 20 ans et un profond mal-être qui ronge le monde agricole. Perte des savoir-faire paysans, effondrement de la biodiversité, pollution des eaux, de l'air, des sols, etc. Il est en revanche étonnant de voir la FNSEA se constituer partie civile alors que l'hiver dernier, ses propres manifestations ont coûté cher aux contribuables. Rien qu'en Bretagne, la DIRO estime les dégâts à 3 millions d'euros. Pour finir, une question se pose. Quel avenir voulons-nous pour notre agriculture et pour nos territoires ? D'un côté, un modèle agro-industriel qui détruit nos sols, assèche nos ressources, enferme les paysans dans la dépendance et condamne les générations futures. De l'autre, une agriculture paysanne, locale, respectueuse de l'environnement et des femmes et des hommes qui la font vivre. Nous refusons que celles et ceux qui dénoncent ces dérives soient traités comme des criminels, alors que les véritables responsables restent impunis. Aujourd'hui, nous demandons non seulement une date de procès, mais également justice pour ces militants, ainsi qu'une véritable transformation de notre modèle agricole. L'agriculture paysanne est la seule voie d'avenir. Ensemble, poursuivons le combat.
Donc là, pour parfaire vraiment le travail sur la voix, on va apprendre à la poser, les graves, les aigus. Et donc, on va commencer par se mettre en cercle. Bertrand, si tu veux...
Ah oui, Bertrand, tu peux venir...
Voilà, viens
Venir avec nous.
Ouais. Voilà, on se met tous en cercle, parfait.
Et on peut commencer par respirer. Alors, nous, on conseille à l'atelier de rigologie de poser la main sur le ventre, comme ça on sent bien. Après, bon, tout le monde doit se détendre, hein, faire comme il veut. Voilà, on respire. Voilà, très bien, tout le monde est détendu, non, il n'y a pas de problème. Et puis, ben, on va commencer avec une petite comptine toute simple, toute simple. Et puis après la comptine...
Oui, je la connais.
Ouais, voilà, voilà. Bah, parfait, parfait, Christian. Ouais. Comme ça, vous allez pouvoir voilà, apprendre les paroles aux autres. Ouais. De toute façon, on va répéter. Hein.
Ah, pourquoi caméra sans répit, mes pitus, du haut de ton poteau, pourquoi nous flics-tu, y a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu, nous en bas dans la rue, on en a plein le cul.
Très bien.
C'est le blocage qui recommence. Le mercredi, c'est les vacances. Touche pas le jour férié, on est déterminé. Tout ça ne fait que commencer. C'est le blocage qui recommence. Le mercredi, c'est les vacances. Touche pas au jour férié, on est déterminé. Tout ça ne fait que commencer.
On va vous chanter une chanson en occitan qui s'appelle Aïe Mama, qui a été créée dans les années 2010. Elle raconte la résistance contre le projet de barrage de Sivens et rend hommage à Rémi Fraisse, le jeune militant tué par une grenade par les forces de l'ordre. Elle a été travaillée par une chorale du Faouet qui s'appelle La Mutine. Et nous, on est quelques membres d'une chorale du Centre-Bretagne qui s'appelle Les Rouges-Gorges et on va les accompagner.
Dedin la forest, ya un liu que la jo, ay mama, se sabies, como le liu fazio en vejo, ay mama, se sabies, como le jo se son le compa,
julien tu compa,
ay mama, se sabies, como le liu fazio en vejo, ay mama, se sabies, como le jo se son le compa.
Les respondeurs michelous, dragues frisclos, et du didal, vikimen, vikro, et vitaza.
Thank you.
laisser là pour le moment.
Merci. Allez-y, Chantal.
Oui, merci, Christian. Alors, eh ben, c'est la pause repas. Voilà, et notre proposition, c'est que nous allons en profiter pour aborder une question très importante hein, dans cette journée bien-être, le bien manger. Et on fera un petit tour de table sur la question. Alors, je vous laisse réfléchir par groupe de 3 ou 4. Qu'est-ce que c'est, selon moi ?
Avec les post-it ?
Avec les post-it, oui, voilà, ouais, vous pouvez les distribuer.
Je vous amène les post-it, Chantal.
Merci beaucoup, Christian.
Et les gommettes ?
Et bah, surtout les post-it. Là, on va rester focus sur les post-it, sur les tables. Voilà, comme ça, vous pouvez déjà prendre place pour le repas. Donc, la question à laquelle il faut réfléchir maintenant, qu'est-ce que, selon moi, une alimentation saine et équilibrée ? Qu'est-ce que, selon moi, une alimentation saine et équilibrée ? On prend les post-it qui sont sur la table, du coup, et on va tous écrire ces petites idées.
Je veux peut-être manger un petit cookie.
Ah oui, on a fait des cookies.
T'as rien fait aussi ?
C'est vrai ? Tu veux un cookie ?
Mais sans cookies.
Ah, toi aussi, t'as fait des cookies. Ouais.
Ils sont café, un peu sous-cuits.
Oh, bah, c'est meilleur.
Bon, ils croquent meilleur ici.
Merci beaucoup.
Moi, ça sort aussi, moi aussi.
Moi, je vais pas manger, quoi, ça. Tiens, toi, ouais. Je suis sûr que tu veux un petit cookie.
Non.
Je pense que ça va te faire du bien, hein. T'as rien dans le ventre. Non,
mais bon. Bah, ouais, mais
vous avez une petite pomme ?
Allô, on recommence. Le pain grillé est arrivé pour un petit déjeuner solidaire avant de partir en manif. En soutien à la caisse de grève, il y a des pains au raisin, il y a du pain grillé, des confitures et du beurre à prix libre en soutien à la caisse de grève.
Est-ce que c'était mieux ?
C'était super. C'est incroyable, chef. C'est la reine du mégaphone.
On est là,
aujourd'hui c'est de la soupe, demain ce sera peut-être des frites.
Ok, et la soupe du coup c'est pris libre, c'est servi dans votre caisse ou c'est chacun se sert ?
Ouais, non, la soupe c'est... Alors, comme la plupart des cantines... Non vas-y, tiens, on va se décaler là. Même si j'adore l'international... Nul n'a droit au superflu tant que tout le monde n'a pas le nécessaire. Et donc, à chacun, selon ses moyens, pour tout le monde, selon ses besoins. Il y a toujours deux règles. Primo, c'est vegan. Secondo, c'est prix libre.
Il y a une petite banderole qui dit on mange des fachos, pas des animaux.
Alors, ça se passe comment sur le stand petit-déj ? Eh ben, nous avons fait des petits appels et comme tu peux voir, le stand est plein. Le café coule à foison. L'ambiance musicale est assurée au mégaphone. Voilà, on est contente. Et les gens mettent des sous dans la caisse de la caisse de grève, donc c'est parfait.
Alors, on est sur la...
Zbelinette.
La Zbelinette ? Alors, c'est quoi la Zbelinette, dis-moi ?
La Zbelinette, c'est un chariot ambulant de manif. Il y en a trois en France. Une avec les cagettes des terres de la ZAD de Nantes. Une avec le réseau de ravitaillement des luttes en Pays-Rennais à Rennes. Et une avec le RAR à Angers. Du coup, ça se décline en trois grands axes. T'as un axe de maraîchage avec l'idée de produire pour nourrir les luttes. Un axe de cantine avec faire des cantines pour soutenir les luttes et un axe de distrib, la distribution alimentaire, c'est la distribution alimentaire de produits plutôt bio, de productrices du coin ou de la Biocoop et c'est à prix libre sans critères sociaux. Notre public, donc c'est environ 90 foyers, c'est ce que je connais le mieux parce que c'est ce que je gère, du coup voilà. Qui sont de tout horizon. Ça va être artistes précaires, militants,
personnes du quartier, jeunes étudiants, personnes retraitées, voilà. Et on a aussi un autre axe qui est soutenir les luttes en donnant de la bouffe à des collectifs qui vont organiser leur propre événement et du coup ils auront à bouffer pour soit vendre la nourriture à prix libre, soit pouvoir nourrir les gens.
Vous avez des cuisines aussi ?
Alors justement, c'est intéressant de vous poser cette question parce qu'on est en train d'ouvrir et de lancer une cantine de quartier à Colonnais à Rennes qui aura lieu tous les mercredis à 18h30 au bâtiment à modeler. L'idée c'est de faire un ancrage de quartier, tout le monde est bienvenu, ce sera accessible financièrement pour les gens. Et du coup... je pense que c'est chouette de pouvoir en parler aussi de cette logique de nourrir et de créer du lien avec la nourriture parce que c'est vraiment ça la dimension du réseau de ravitaillement, c'est faire perdurer les luttes avec la nourriture mais aussi créer du lien.
Alors, une alimentation saine et équilibrée, d'accord, mais ça veut donc dire aussi éviter les poisons.
Au début, quand le collectif s'est créé, c'était EDF donc, qui annonçait une, puis sûrement deux piscines de stockage de déchets nucléaires. Et les piscines, en fait, à la Hague, ces piscines de stockage de déchets radioactifs, elles commencent à être pleines. Et donc, en 2021, EDF annonce vouloir construire des nouvelles piscines pour accueillir de nouveaux déchets radioactifs. Et ça a été un peu comme la goutte d'eau... qui a fait déborder le vase, on va dire ici, qui a fait déborder la piscine. Il y a quand même des habitants qui se sont réunis et qui ont monté ce collectif contre ces nouvelles piscines. Et un peu la spécificité quand même au départ de ce collectif, c'était justement d'essayer d'attirer et de venir vraiment mettre en question le fait de poursuivre l'accueil de déchets, enfin le fait que la Hague soit vraiment une poubelle nucléaire de plus en plus grande, et ouais. De se dire, en tout cas au-delà de la question de pro ou anti-nucléaire, de dire nous ce qu'on vient mettre en question, c'est le fait qu'on vient tout centraliser aussi dans la Hague, qu'on vient continuer à gonfler et à grossir ces poubelles nucléaires. Et du coup, on invitait quand même les personnes à venir se questionner. Et au début du collectif, il y avait des personnes qui étaient plus ou moins proches d'Orano. Et en tout cas, le parti pris, ça a été de dire un peu en contre-pied avec d'autres collectifs ou d'autres associations qui existent déjà dans la Hague, qui sont clairement anti-nucléaires, de dire bah, « nous, on est un peu au-delà de ce clivage ». On vient aussi questionner le fait qu'on ne se pose pas de questions sur le fait de recevoir et de continuer à recevoir des déchets et le fait que le nucléaire soit la seule perspective en fait, économique de la région.
Mais je vous dis, faites travailler vos esprits et qu'on ne les voit plus sur notre terrain. Ouais.
La population du Cap ayant démontré clairement qu'elle ne voulait pas de centrale nucléaire chez elle ni ailleurs, il est évident que nous ne reverrons plus jamais les gardes mobiles.
Il y a tous ces effets nocifs, cette radioactivité qui est consubstantielle à cette énergie. Et puis il y a cette capacité diabolique d'en faire des bombes nucléaires, de détruire en un instant la totalité de la vie sur la planète, compte tenu du nombre de ces bombes que l'on a accumulées. Bien sûr, il y a le danger nucléaire civil et il ne faut pas l'ignorer, mais je dirais que c'est un peu une mort lente, alors qu'avec la bombe atomique, c'est une mort subite, et c'est une mort immédiate et c'est une mort radicale et totale. C'est une illusion de croire que l'arme nucléaire, c'est une assurance vie. Je pense que c'est une assurance mort.
Chère Greta Thunberg, dès que je t'ai entendu lancer ton premier appel, la véhémence de ta voix, la justesse de ton propos, l'intensité de ton apostrophe m'ont convaincu que tu étais une sorcière. Moi qui suis une vieille sorcière du siècle dernier, je te vois comme une jeune sorcière, rebelle et savante. Tu as fait lever en moi un fol espoir, comme si tu me donnais la main à travers les générations. Tu as été bouleversée, j'imagine. Comme moi-même, j'ai été bouleversée, comme nous avons été des millions à être bouleversés en regardant la photo d'un ours tenant tout juste sur un petit iceberg en train de fondre. Il va mourir, il va s'enfoncer, au secours, il faut agir. Mais personne, presque personne, je le crains, n'est bouleversé en apprenant que plus de 8000 tonnes de combustibles irradiés, plus de 55 tonnes de poudre d'uranium, des milliers de mètres cubes de déchets sont sous nos pieds dans le nord de la presqu'île du Cotentin, ce pays qui était pâturage, que plusieurs millions de litres de rejets liquides radioactifs sont dispersés dans le ras Blanchard, là, dans la mer.
Stéphane Séjourné, le commissaire européen chargé de la stratégie industrielle, veut accélérer la réouverture de mines de métaux rares en Europe et a reçu 170 projets d'exploitation ou de recherche minière, a-t-il indiqué mardi soir.
On constate aujourd'hui qu'il y a un certain nombre, grand nombre d'acteurs industriels, politiques, qui vendent une image totalement désincarnée de l'activité minière, extractiviste, sous la formule... mine propre, mine vertueuse, mine verte, ou après mine, comme si on pouvait fermer le tiroir et puis jeter la clé et tout allait bien. Et puis désormais, ben, ça a été évoqué, la transition énergétique. Le problème, c'est que le fait de transformer de la roche massive en utilisant des explosifs, des brise-roches, du broyage, pour pouvoir en extraire le métal... Ça déclenche, ça a déclenché, ça déclenchera toujours des réactions chimiques qui sont extrêmement impactantes. Mmh. Et pour l'environnement, pour la santé publique, quel que soit l'emballage publicitaire. Donc cette activité génère et générera toujours d'énormes consommations d'énergie et d'eau qui sont équivalentes à celles d'une agglomération de plusieurs dizaines de milliers d'habitants pour une seule mine de taille moyenne. La production d'énergie carbonée ou électrique nécessite des équipements et des réseaux de transport filaires, qui eux-mêmes sont consommateurs d'énormes quantités de métaux. Donc on est un peu dans une boucle shadowienne là. Et quant aux rejets et les écoulements d'eau de surface ou souterraine liés à la mine, eh ben, ils sont fortement acidifiés par des réactions chimiques qui sont incontournables. Et pollué par les substances chimiques qu'on utilise pour concentrer la matière, etc. Bon, donc...
Bon, alors, la mine propre, alors, elle n'existe pas, la mine verte.
Ben, faudra réécrire les lois de la chimie, mais ce n'est pas mon truc. Donc, le problème, c'est que, je rappelle que les concessions minières sont accordées pour 50 ans, renouvelables deux fois pour une période de 25 ans chaque fois. Donc, on est sur le siècle. Mmh. Ça veut dire, en gros, 3 à 4 générations humaines. Hein. Et on s'aperçoit, parce que jusqu'à présent, ça n'avait pas été trop exploré, mais depuis quelques dizaines d'années, les archéologues, les scientifiques ont accumulé des preuves du fait que des mines préhistoriques qui n'ont jamais été rouvertes, réexploitées depuis 1500 avant notre ère, ou même avant, depuis l'an 1000 de notre ère, cette fois-ci, continue de polluer dans les mêmes conditions, avec les mêmes conséquences que ce que j'évoquais pour la période d'activité minière. Ce qui fait que ça permet de dire qu'un territoire miné est un territoire sacrifié, et il n'y a pas que le territoire, il y a la population aussi dessus.
Oui, ben forcément, c'est pas très gai, mais il faut pas le prendre comme ça, Bertrand... Mais Bertrand, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais Bertrand, mais il tombe de l'œil. Mais Chantal, qu'est-ce qu'on fait, Bertrand?
Alors, moi, je travaille au CHU de Brest depuis maintenant 25 ans. En effet, là, maintenant, je suis en détachement syndical pour la CGT. Mais en tant qu'infirmière, j'ai clairement remarqué depuis 25 ans, en fait, la marchandisation de la santé. C'est-à-dire que depuis la mise en place de la loi Bachelot, Latedoza, qui est arrivée sur le secteur de la santé publique, clairement, maintenant, l'hôpital, les différents actes à l'hôpital sont tarifés. En fait, il y a un tarif pour chaque acte. Et malheureusement, du coup, tout l'hôpital s'est organisé avec les différents actes médicaux. Et selon les actes médicaux que chaque secteur fait, il y a l'argent qui est accordé à ce secteur-là. Si on peut dire schématiquement, alors je peux vous donner des exemples. Par exemple, sur les secteurs de la chirurgie, là où il y a beaucoup d'actes médicaux qui sont faits, bah là, il y a beaucoup d'argent qui sont mis. Alors que sur les secteurs comme la psychiatrie ou les EHPAD, on n'a pas d'actes médicaux à proprement parler. On a des actes d'accompagnement, d'écoute, voilà, de passer du temps, d'accompagner par exemple une personne âgée pour manger, pour s'habiller, pour mettre ses chaussettes, ses chaussures. Tout ce travail-là n'est pas compté et n'a pas de prix dans la nouvelle loi de la, enfin dans la loi de santé qui a été mise en place avec
2003.
La loi Bachelot. Voilà, avec ouais. La loi Bachelot. Du coup, ce qui fait que tous ces secteurs-là n'ont pas d'argent pour travailler. Un infirmier de psychiatrie qui prend du temps pour manger avec un patient qui ne veut plus manger, cet acte-là n'est pas compté, n'est pas considéré comme un soin, si on peut dire. Du coup, tous ces secteurs-là sont des secteurs pauvres de la santé. Voilà. Alors que, par exemple, sur la chirurgie, alors là, vous avez des actes médicaux, voilà, une intervention, un pansement, quand on met une perfusion, tout ça, c'est des actes médicaux. Il y a des tarifs pour chaque acte médical. Voilà.
Mais du coup, cette tarification à l'acte, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la répartition hôpital, clinique et tout ça, ça a des répercussions ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des répercussions très nettes justement sur les cliniques, l'hôpital, parce que du coup, les cliniques prennent les actes médicaux qui rapportent de l'argent, mais qui demandent pas une hospitalisation. Parce que l'hospitalisation, du coup, ne rapporte pas forcément de l'argent. Donc, il y a beaucoup d'actes médicaux qui sont faits en ambulatoire pour apporter le maximum d'argent. Donc, ce qui fait qu'en fait, on va aussi vers l'ambulatoire à outrance, en fait, même à l'hôpital de Brest. C'est-à-dire qu'on a mis en place des secteurs d'ambulatoire, mais médical et chirurgical. Vous avez peut-être vu. Alors, le CMA, c'est le Centre Médical Ambulatoire. C'est un nouveau service qu'au CHU, on a ouvert. On a mis beaucoup d'argent aussi pour l'ouvrir, mais voilà. Le CCA, c'est le Centre Chirurgie Ambulatoire. Donc, le patient rentre le matin, l'acte médical est fait, le patient doit sortir l'après-midi. Donc, voilà. Donc, l'argent est, du coup, donné à l'hôpital pour l'acte médical qui est fait. Et du coup, tout ce qui est prise en charge, donner du repas, tout ça, on ne s'en occupe pas. Donc, le patient rentre à la maison.
J'ai participé à la création et aussi aux actions du collectif Careful. Donc, c'était un collectif politique brestois d'étudiants et étudiantes en santé qui était vraiment porté sur le soin et la réflexion autour du système de santé aussi et de la formation en santé, dans le sens où on considère que la politique a un impact sur la santé et que la santé est politique. C'est un peu défoncer les portes ouvertes de dire ça, mais en fait, c'est pas forcément évident au sein des formations, mais notamment médicales, et enfin même de manière générale en santé, que le capitalisme, le patriarcat, le racisme, tous les systèmes d'oppression ont de réels impacts en fait et génèrent des disparités et des inégalités de soins. Et en fait, c'est venu du fait qu'on était plusieurs camarades au sein des promos à se poser ces questions-là et à se sentir un peu aussi isolés et minoritaire, et on a voulu en fait se recenser, se retrouver pour pouvoir mettre des espaces, comme j'expliquais tout à l'heure. Moi, on considérait qu'en fait on a peu d'espace dans nos formations pour prendre du recul sur tout ça, et c'était aussi l'objectif, et pouvoir remettre en question en fait aussi toute la hiérarchie au sein des différents corps de métier de la santé, remettre en question le corporatisme élitiste médical, essayer de visibiliser aussi les luttes contre les discriminations, se partager des outils, se partager des ressources. Et aussi, un des grands objectifs, c'était à travers ça mener des actions en faisant intervenir des personnes concernées par les différentes discriminations au sein du système de soins. Donc par exemple, en fait, on a fait des actions au sein de la fac de médecine avec une projection d'un film entre deux sexes avec sur les luttes intersexes avec la présence de militantes du CIA, c'est le collectif intersexe activiste. On a fait aussi une soirée sur la grossophobie avec des membres de soignants qui sont dans l'antenne du GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, et des personnes aussi concernées par la grossophobie dans le milieu médical et de manière générale au sein de la société. En fait, c'était aussi pour... Donc tout ça, c'était à destination des étudiants et étudiantes en santé. Donc on a réussi à le faire à la fac de médecine, on était très ravis de ça. Et ça permet aussi de parler de sujets qui sont peu, voire absolument pas abordés dans nos formations, quoi.
Ces outils-là permettent peut-être de réveiller une fibre un peu plus politisée dans la tête des étudiants et étudiantes. Bah,
moi, je trouvais à travers Careful, c'était essayer de redescendre de tout ça en tant que futur médecin, d'essayer de prendre du recul et d'essayer de penser différemment pour aussi horizontaliser notre rapport entre les différents corps de métier, déjà faire du lien. Parce que l'objectif, c'était pas forcément qu'il y ait que des étudiants en médecine, mais aussi de faire du lien avec d'autres étudiants dans les différentes disciplines. Et aussi, voilà, c'est ça, horizontaliser le rapport et horizontaliser notre rapport vis-à-vis aussi des patients et des patients qu'on prend en charge.
Bon, bah, maintenant que Bertrand a repris des couleurs...
Et bien justement, en parlant de couleurs, on va aborder le module pratique artistique.
On va pouvoir passer au programme de la deuxième partie d'après-midi. Si vous avez envie de vous creuser les méninges et de tester votre connaissance du modèle agro-industriel, on vous propose, et en exclusivité, une fresque de l'agro-industrie. Donc cet atelier, vous pouvez le suivre à peu près par groupe de 12. Et ça se passe sous le barnum noir avec la table et la nappe verte. Ça dure à peu près 30 minutes.
Pour comprendre comment on en est arrivé au système ferme-usine, il faut essayer de comprendre historiquement comment on est arrivé au système agro-industriel. Donc je vais vous distribuer des cartes et ce sera à vous de les orienter, enfin de les placer par ordre. Voilà, et donc si vous pensez avoir la première carte...
Alors, je peux lire le truc. En 1900, les paysans représentaient environ 75% des travailleurs français et un tiers en 1946. Les fermes étaient de petite taille, peu spécialisées. Dans l'économie globale, la vie rurale est dominante par rapport à d'autres activités. La vie paysanne peut se caractériser par un rythme particulier imposé par le concubinage avec la nature, par un façonnement des paysages, sa capacité à subvenir aux besoins matériels sans passer par le marché. Sa créativité, sa connaissance intime du terroir, sa modération matérielle, sa cohabitation quotidienne avec les animaux, ses assolements complexes qui permettent de cultiver sans ruiner la terre. Les hivers sont rudes, la végétation échappe parfois aux paysans, l'humidité et les rongeurs sont durs à combattre. La paysannerie est un style de vie, des mondes ruraux s'organisent autour de l'activité productive.
Ouais. Bon, alors, donc ça c'était l'organisation de la vie dans une société paysanne. Qu'est-ce qui s'est passé après ?
Augmentation de la productivité.
C'est peut-être ça, mais je sais pas ce qu'il y a d'autre. Moi j'ai l'augmentation de la productivité.
Ah non, il y a ça avant, et il y a peut-être ça avant.
Oui, appauvrissement des relations sociales en milieu rural.
Avant d'avoir placé ça,
c'est une conséquence.
C'est
une conséquence.
C'est
au moment de la guerre.
Ça, c'est une conséquence.
Non, mais tu sais, c'est leur gros truc.
Ah oui. La mécanisation fin des années 50.
Ah oui.
C'est après.
Donc on est plutôt en 1940-1950, enjeu de la modernisation agricole. Dans les années 1940-1950, la France se lance à la poursuite d'une croissance économique intensive. L'agriculture française est jugée archaïque. Le monde paysan devient un obstacle à la croissance. La paysannerie doit devenir un secteur productif au service de l'industrialisation. Le monde agricole doit être à la fois un débouché de l'industrie et un réservoir de main-d'œuvre. Il faut la transformer en une agriculture instruite, équipée, modernisée et productive.
«
les fermes-usines créent de l'emploi?
Mais bien sûr.
Non, elles font disparaître des emplois plutôt.
Et puis avec l'IA, ça va encore s'arranger.
Dans tous les plans, dans tous les dossiers que doivent rendre les gens qui veulent étendre, enfin faire des extensions dans leurs fermes-usines ou installer des fermes-usines, ils doivent raconter s'ils vont créer de l'emploi. Et à chaque fois, l'objectif, c'est vraiment de maintenir l'emploi existant. C'est absolument pas d'en créer. Donc tout le mythe de la ferme-usine créatrice d'emplois sur un territoire, c'est complètement faux. Et le pire dans cette histoire, c'est que du coup, ils ont parfois recours à de l'exploitation de main-d'œuvre sans qualification et de manière ponctuelle. Parce que comme tout est dirigé par le marché, l'objectif, c'est de produire à moindre coût, donc de vendre pas cher. Donc il ne faut pas avoir d'autres salaires à payer. Et donc, il y a le développement de nombreuses formes d'esclavage moderne, avec des travailleurs sans papier qui sont exploités et qui ne sont souvent pas payés. Bon, et donc tout ça a des conséquences vraiment dramatiques sur la santé physique des agriculteurs et des agricultrices, parce que phytosanitaire, cancer.
Et suicide.
Voilà, ça, c'est la santé physique. Et après, en santé mentale, vous pourrez lire les cartes si vous voulez après. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on lutte?
On dit la vérité. On dit la vérité sur les produits bio par rapport aux produits conventionnels. On dit jamais assez que les produits conventionnels, tous les inconvénients qu'il y a et combien ça coûte aux contribuables tous les jours.
Et puis, si le conventionnel est accessible, c'est aussi parce qu'il est subventionné à balle. Voilà. Et qu'en fait, donc tout ça, c'est vraiment le résultat de choix politiques.
Et puis il est aussi payé au prix au paysan quand même, il y a aussi ça.
Ce que je veux dire, c'est que la santé, en fait, elle est payée par le régime de santé qui est mutualisé, alors que l'agriculture, c'est un système de privatisation.
L'enjeu alimentaire, il ne doit pas être uniquement un enjeu paysan, et c'est notre affaire à tous. Et en fait, on ne prend pas beaucoup l'espace d'expression et de choix, et ça, c'est pas normal.
Ouais, c'est pour ça que là, il y a des nouveaux modèles, par exemple la sécurité sociale de l'alimentation qui émerge et qu'il faut vraiment réussir à pousser pour vraiment repenser le système dans sa structure, quoi.
La barrière,
ça va remettre de l'humain au cœur de tout ça.
C'est un très bel exemple de fresque participative. Alors maintenant, avant le goûter, je vous propose une dernière petite activité peinture. Vous allez voir, ça donne vraiment envie.
Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ?
Moi, c'est artiste et je suis membre du collectif Artiste Peintre.
Et moi, c'est peintre.
Eh bien, enchanté. Donc, vous êtes là aujourd'hui pour nous partager une technique toute particulière, dont vous avez fait usage à plusieurs reprises, sur la caméra de la place. Pourriez-vous nous parler un peu de la technique utilisée, du matériel nécessaire pour ces opérations ninja que vous avez donc réalisées ?
Nous sommes allés sur la place Guérin, tout de blanc vêtu, de la tête aux pieds, les pieds compris, avec une combinaison de peintre, quoi, pour être totalement anonyme. Et nous sommes équipés d'une grande perche télescopique et d'un rouleau de peinture de manière à repeindre la caméra de la place Guérin. Autour des 23h, histoire d'y être quand les bars étaient encore pleins et où il y a peu de chances de croiser la police, c'est que si jamais elle était présente, nous avions l'espoir que la population locale fasse diversion pour nous protéger.
En fait, l'idée générale, c'était de s'opposer à une caméra et à ce qui se fait de mieux en termes de détection, d'identification, et un peu de se montrer aussi à nous-mêmes qu'on pouvait s'opposer à ce genre de choses, quand même qui sont des trucs qui sont faits pour nous identifier, sans se faire identifier justement. Du coup, voilà, la technique qu'on a trouvée, c'est un peu inspirée des soulèvements de la Terre. C'est le fait d'utiliser une combinaison de peintre, de se recouvrir les pieds, d'avoir des gants, un masque, des lunettes, ce qui permet en fait de ne pas être visible ou identifiable ni par la caméra, ni par les gens qui pouvaient être présents autour. Et ça a assez bien marché parce qu'a priori, on n'a pas été reconnu par qui que ce soit.
Et vous pouvez nous raconter donc la réaction des gens ?
La première fois, quand on passe à côté du bar, les gens sont en mode « Ah, enterrement de vie de garçon, c'est drôle ». Et juste à peine on est commencé à arriver sur la place, tout le monde est en mode « La caméra, la caméra !» La caméra vient tout juste d'être installée et on était en train d'avancer. Les gens nous avaient pas encore aperçu que les gens étaient déjà en train de pester sur la caméra, quoi. Donc une fois qu'on arrive au niveau de la caméra, tout le monde est en train de nous encourager. C'est un moment très jouissif, en fait, de sentir toute la population qui est derrière nous, qui est en accord avec nous. On sent que les habitants, les usagers de la place Guérin sont vraiment contre cette caméra, cet œil de Sauron qui nous observe en permanence.
Et vous aviez réfléchi justement au pourquoi de la peinture, au rapport bénéfice-risque?
Bah alors ça, c'est important, parce qu'on avait quand même dans l'idée de ne pas se faire gauler, mais on avait aussi en tête que c'était possible. Donc du coup, il s'agissait de s'organiser un peu en amont pour, on va dire, préparer notre défense. Et il se trouve que cette caméra, elle a un revêtement qui est censé être anti-peinture. Du coup, si tu la peins, tu l'abîmes pas. Donc on s'est contenté de la neutraliser, mais pas de la mettre en panne. Et en fait, on avait dans l'idée de pas partir sur un désamorçage définitif, même si ça avait été envisagé auparavant, quoi. Bon, voilà, ce qui paraît, il y a d'autres collectifs qui ont tenté de les mettre hors service en coupant les câbles. Donc voilà, soutien et big up aux camarades du BTP. Mais nous, on est un collectif d'artistes peintres, hein, donc on fait pas dans l'électricité.
Comment vous aviez anticipé la VSA qui existe au sein même de la caméra ?
L'idée, c'était de prendre des tenues larges, très larges, pour que notre silhouette réelle soit pas identifiable. C'est surtout ça qu'on a fait là-dessus. Avoir des combinaisons de peintres avec capuche, masque, lunettes, on était bien couverts.
Et surtout, bien cacher les chaussures. Ça, c'est quelque chose de facilement identifiable et qui se retrouve dans une perquise. Donc les chaussures, c'est dans un sac poubelle avec un petit bout de scotch. C'est pas très élégant dans la rue, mais ça disparaît très bien une fois sorti du champ de la caméra. Et la première poubelle venue, ça fait une bonne poubelle. Donc voilà, ça se trie.
Et vous avez réalisé donc trois fois cet atelier peinture avant de réaliser un petit tutoriel papier que vous avez distribué dans les boîtes aux lettres du quartier. Parce que j'ai eu la chance d'en recevoir une dans ma boîte aux lettres, justement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le pourquoi du comment ?
Alors, on l'a pas distribué dans les boîtes aux lettres. En fait, on a laissé des piles de tracts dans différents endroits, à gauche, à droite. Et je pense qu'il y a des gens qui les ont mis dans les boîtes aux lettres. Mais c'est carrément pas nous. Là-dessus, on se dédouane. On est innocents.
Ah oui, donc c'est complètement un projet collaboratif. Donc, c'est tout de même vous qui l'avez réalisé, le tract. Donc, pourquoi ?
On se disait que ce que nous faisions était très bien, mais il fallait que l'ensemble de la population et des usagers de Guérin aient à s'emparer de cette action, de ce mode opératoire aussi. Et peut-être aussi que ce mode d'action puisse atteindre d'autres gens, puisque nous ne sommes pas les seuls à avoir une caméra au-dessus de notre tête, et que peut-être d'autres personnes s'en emparent et réagissent dans leur quartier pour lutter contre leur œil de Sauron à eux, quoi.
D'accord. Un petit mot pour la fin ?
Vive l'art et la liberté !
On est très content qu'il y ait des collectifs et des gens du quartier qui montent quelque chose autour de la caméra. Et du coup, on espère que c'est un débat qui fleurira. Et puis, on espère pouvoir s'en débarrasser de toutes ces caméras.
Eh bien, merci. Merci pour votre travail.
Oui, alors bon, c'est... Christian, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, vous savez, la mairie,
Enfin bref, pour finir la journée, le module surprise, être en communion avec la nature et les animaux.
Ceci est un message du FLIP. Ceci est un message du FLIP, le Front de Libération Intergalactique des Poules. Nous demandons de l'aide à toute personne proche du poulailler. Nous sommes 60 000 confinés dans un hangar. Nos corps gazés aux hormones se développent trop vite pour nos squelettes qui ne nous portent plus. Nous sommes nourris à la malbouffe, gavés d'antibiotiques. Nous ne pouvons pas nous déplacer par manque d'espace. 69 de nos camarades meurent chaque jour. Nous n'avons jamais vu la lumière du jour. Notre air est renouvelé par des ventilateurs. À la moindre panne d'électricité, c'est toute la communauté qui meurt. Nous avons entendu parler de pannes géantes en Espagne et au Portugal. Nous avons donc peur pour nos vies. Nous avons besoin d'aide pour nous évader. Nous sommes organisés collectivement en tant que FLIP, le Fonds de Libération Intergalactique des Poules. Mais nous flippons, grave, aidez-nous à sortir. Nous voulons de l'air et des vers de terre. Ceci est un message du FLIP. Nous voulons de l'air et des vers de terre. Nous voulons de l'air et des vers de terre.
Hier, on a reçu un message par Takiwaki du FLIP, qui est le Front de Libération Intergalactique des Poules.
Et donc elles nous demandent des billes. En fait, elles nous ont appelé pour... voilà, on a besoin d'aide et nous, on ne sait pas quoi faire. Et on demande un petit peu des conseils, si vous avez des conseils pour les aider à sortir de là ou nous aider à les faire sortir de là.
Peut-être se faire la courte échelle déjà,
ouais.
Pour pouvoir passer au-dessus des barrières, des trucs comme ça. Ça donne un petit coup de main, tu vois, se monter les unes sur les autres. Ouais, la courtelle peut-être. Ouais, sinon, peut-être tracter. Nous, on a fait du tractage en vélo pour que les gens soient au courant, qu'elles prennent leur petit vélo. Tester de passer dans le village, donner des petits flyers pour demander un coup de main pour les sortir de là. Quoi.
Bah oui,
toute seule, c'est compliqué.
On était même pas au courant qu'il y avait un poulailler,
ouais.
Parce qu'on les voit
ouais,
pas.
Voilà, exact. Donc, je sais pas, choper un vélo quelque part, le proprio doit sûrement avoir un vélo, et puis passer dans le village.
Ah,
pour.
On ship son vélo.
Bah, tant qu'à faire. On leur ship la liberté, alors pourquoi pas choper un vélo.
Creuser un tunnel.
Creuser un tunnel. Super, j'aime bien. De picorer un tunnel.
Voilà.
On a eu au téléphone un technicien geek des systèmes d'élevage avicole. Enfin, il nous a indiqué un procédé pour tenter une évasion de masse. Il y a une faille dans le système. Donc, on vous informe, en cas de production de bruit suffisante, c'est-à-dire 90 dB à la poule 10 mètres, le système de sécurité ouvre la porte du hangar. Les poules, si vous nous entendez, les poules, hurlez dans le hangar, faites un maximum de raffus, du raffus dans la campagne.
Et voilà, ce numéro spécial de Du pain et des parfums se termine. Il a été concocté à la hâte début décembre pour que tout le monde puisse partir en vacances.
Cette émission est diffusée le samedi 3 janvier sur les ondes de Radio U, qu'on remercie de nous avoir accueillis en cours d'année. On s'y sent déjà chez nous et c'est chouette.
Big up à tous les militants militantes qui se démènent, qui se bougent, qui se mouillent, surtout ici où les manifs sont souvent sous la pluie, qui se frottent aux forces de l'ordre ou qui bossent des milliers d'heures sur des dossiers juridiques.
Qui plaident dans la presse ou dans les journaux, qui publient des articles, qui récoltent des fonds, qui font grève, qui luttent, qui éditent des bouquins.
Qui témoignent, qui dévoilent des affaires, qui prennent des risques, qui brisent l'omerta.
Qui se font pas que des amis.
Qui affrontent dans la dignité les foudres de la presse réactionnaire.
À ce propos, et même s'il s'agit de journalistes et pas de militants, on vous fait part d'une mésaventure vécue en décembre par nos amis du média indépendant Splan.
Mercredi 3 décembre, deux journalistes de Splan, Chloé Richard et Christine Falron, ont été refoulés de la présentation du bilan RSA du président du conseil départemental du Finistère devant 200 chefs d'entreprise réunis chez Armor Lux à Quimper.
Alors que le télégramme EOS France était accueilli à la soirée, les journalistes de Splan ont été refoulés de façon musclée par les vigiles. La cause, bah, c'est pas des copains et des copines de Maëlle de Calon. Parce que Splan a mis en cause sa politique de chasse au RSA. On peut lire un article de Splan qui documente en particulier comment les paysans au RSA se font sucrer leur allocation. La politique anti-RSA du conseil départemental du Finistère avait déjà été documentée par le quotidien national Libération en septembre 2025.
On vous met un lien dans l'article du podcast si vous voulez plus de détails. Et autre actu de décembre, les copains de Bretagne contre les fermes-usines, qu'on aime tellement qu'on a fait deux émissions avec en 2025, sont passés devant les juges le 15 décembre. À l'heure où cette émission est diffusée, le verdict est sûrement tombé pour les 12 inculpés. En tout cas, on sera allé les voir le jour du procès et on n'a pas fini de vous en parler.
Pour les amateuristes de radio et de son en général, on a pensé à autre chose qui s'appelle « Dis, t'as pensé à éteindre la radio », un radio live et love d'Annabelle Brouard et Olivier Minot. C'est le 15 janvier au Centre culturel Le Sillon à Lannion. Je cite « Pour qui aime surfer sur les ondes, se rappeler aux émissions ou chansons qui ont fait l'histoire radiophonique. Tout public dès 14 ans. »
Alors on se retrouve le mois prochain et d'ici là, bonne entrée dans 2026. Bisous.
Ciao.
Ciao.